Vous êtes sur RTL.
Il est 10h.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Et c'est Yann Boucherie qui vous informe en ce dimanche 29 mars 2020. Bonjour Yann.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le décès de Patrick Devedjian. On l'a appris il y a moins d'une heure. L'ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a succombé au coronavirus. On y revient dès le début de ce journal. Sur le plan sanitaire, les évacuations se poursuivent du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. 36 patients ont pris place dans deux TGV. Nous ferons le point aussi dans une région pour le moment un peu plus épargnée, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aux États-Unis, la barre des 2000 morts a été franchie avec pour la première fois un bébé parmi les victimes. Plus de 10 000 morts en Italie et des bons alimentaires distribués à la population. Et puis la grande boucle dans l'attente, l'annulation du Tour de France cycliste fragiliserait économiquement de nombreuses équipes.
Il était donc l'une des figures de la droite française depuis de nombreuses années. Patrick Devedjian est décédé à l'âge de 75 ans.
Ancien ministre, il dirigeait le département des Hauts-de-Seine. Benjamin Sportouche, bonjour.
Bonjour.
Il était malade du coronavirus depuis le 26 mars. Il l'avait annoncé, mais sa mort la nuit dernière est un choc pour le monde politique.
Oui, les hommages se succèdent au-delà même du monde politique. Patrick Devedjian, qui avait commencé sa carrière politique dans le mouvement d'extrême droite Occident, on est dans les années 60, avant de contribuer à créer le RPR avec Charles Pasqua, un parti totalement dédié à l'ambition présidentielle de Jacques Chirac. C'est d'ailleurs sous l'étiquette du RPR qu'il sera élu député des Hauts-de-Seine, fonction qu'il cumule avec celle de maire d'Antony. Il y est resté près de 20 ans. Mais en 1995, eh bien, il décide de soutenir Édouard Balladur et du coup l'élection de Jacques Chirac ouvre pour lui une traversée du désert qui s'achève en 2002. Proche de Nicolas Sarkozy, il devient finalement son ministre délégué aux libertés locales, puis il passe à l'industrie. Mais lorsque Nicolas Sarkozy devient président de la République, eh bien, c'est la douche froide. Il rêvait d'être ministre de la Justice, mais l'ouverture à gauche l'en prive. Jamais à court d'un bon mot, on s'en souvient. Patrick Devedjian aura alors celui-ci. Je suis pour un gouvernement d'ouverture, y compris aux sarkozystes. En 2008, il retrouvera finalement le gouvernement chargé du plan de relance en pleine crise économique. Et à partir de 2010, eh bien, il se replie sur le département des Hauts-de-Seine, dont il était toujours président, résistant aux assauts du clan Sarkozy, à un moment aux ambitions du fils de Nicolas Sarkozy, Jean Sarkozy. Avocat de profession, érudit, les rencontres que nous avions nous avec lui, journaliste, étaient toujours le moment de références culturelles, littéraires. Patrick Devedjian était aussi un ardent défenseur de l'Arménie, dont il est originaire, et de la reconnaissance du génocide par les Turcs. Dans un tweet il y a deux jours, il annonçait lui-même qu'il était atteint du Covid-19, rendant hommage au travail exceptionnel des soignants, fatigué mais stabilisé, disait-il, grâce à eux, il est décédé dans la nuit.
Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. On vous retrouve à midi sur notre antenne tout à l'heure. Le grand jury RTL, Le Figaro, l'invité Muriel Pénicaud. Et dans la deuxième partie de l'émission, la ministre du Travail débattra avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Alors la mort de Patrick Devedjian suscite évidemment un émoi très fort chez ses compagnons de route, parmi lesquels Roger Carucci, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Patrice Thomas, vient de le joindre pour RTL.
Il avait été hospitalisé en début de semaine pour le coronavirus. Visiblement, au début, on a dit en observation, parce qu'il allait pas trop mal. Jusqu'à mercredi, jeudi, visiblement, ça allait à peu près, puis ça s'est dégradé subitement il y a 48 heures. Il y a encore 33 semaines, il plaisantait en me disant, vous savez quel renouvellement des conseillers départementaux en 2021. Et il me disait en plaisantant encore, il faut que je fasse encore un ou deux mandats. Ce que je vous dis, il y a 2-3 jours, je lui avais envoyé un texto à l'hôpital sur le thème, je sais que tu n'es qu'en observation, on te souhaite prendre rétablissement et te retrouver très vite à la tête du département. Toi, quand j'ai vu tomber le mail, d'ailleurs, je suis un peu tombé du lustre. C'est un choc, oui.
Roger Carucci, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, joint il y a quelques minutes par Patrice Thomas pour RTL. Les hommages se multiplient sur Twitter. Le président du Sénat, Gérard Larcher, évoque sa grande tristesse. Idem pour l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui souligne ses convictions, son caractère et son talent. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, fait également part de sa très grande émotion.
Yann, le coronavirus, le pic de l'épidémie est attendu dans les 15 prochains jours et les transferts de malades s'accélèrent de région à région.
Oui. 36 patients du Grand Est doivent être évacués aujourd'hui en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Un transport dans deux TGV médicalisés depuis les gares de Mulhouse et de Nancy. François Braun, le président du SAMU Urgence de France, était au cœur du dispositif justement ce matin à Mulhouse.
Tous les patients qui arrivent en ambulance sont accompagnés par un médecin et une infirmière ou une infirmière anesthésiste. Et puis dans le train, de la même façon, par voiture, il y a 4 patients et ces 4 patients sont accompagnés par une équipe soignante de 6 personnes. Le train qui quitte la Lorraine va vers Bordeaux et vers Bayonne. Et on se rend compte qu'il est pertinent d'évacuer des patients vers des zones moins impactées. Comme ça, les gens travaillent dans leur environnement, dans des vrais services de réanimation. Donc c'est le choix stratégique qui a été fait par la région Grand Est et je crois que c'est un bon choix.
François Braun, le président du SAMU Urgence de France, en direct il y a une heure sur RTL depuis Mulhouse. 10 hôpitaux d'Aquitaine seront concernés au total par ces arrivées de malades. Les deux TGV nommés Chardon 2 et Chardon 3 sont attendus dans l'après-midi dans le sud-ouest.
Prenons à présent Yann, la direction de la région PACA. Elle se prépare au pire selon les propres mots du directeur des hôpitaux de Marseille.
Oui, après plusieurs semaines d'une contamination plutôt faible par rapport à d'autres régions, le Sud devrait être frappé de plein fouet dès le début de la semaine. Hugo Hamelin, bonjour.
Bonjour Yann.
Avec déjà une forte augmentation des cas graves ces derniers jours.
Oui, ici dans le Sud, en une semaine, on a multiplié le nombre de personnes en réanimation quasiment par 4, le nombre de décès par 5. Ce matin, 211 malades sont en soins intensifs, 56 sont décédés et il y a 3000 personnes qui sont contaminées dans la région. Ça va encore grimper en flèche dans les jours qui viennent. Les hôpitaux libèrent un maximum de lits de réanimation. Les cliniques privées sont mises à contribution. L'objectif, c'est d'avoir plus de 500 lits de réa dès le début de la semaine prochaine. Et puis à Marseille, les hôpitaux recrutent à tour de bras pour pouvoir instaurer un roulement entre les équipes de soignants quand on sera au plus fort de la crise.
Alors Hugo, la personnalité à Marseille qui a cristallisé les débats cette semaine en France et dans le monde, c'est le professeur Raoult. Contre l'avis du gouvernement, il a commencé à dépister les personnes présentant des symptômes et à donner son traitement à la chloroquine aux malades les plus graves. Est-ce que l'épidémiologiste continue sur sa lancée ?
Oui, plus que jamais. Il vient de publier une deuxième étude portant cette fois sur 80 patients. Selon lui, 65 d'entre eux ont connu une évolution favorable de la maladie en 5 jours et sont sortis de l'hôpital. Le problème, c'est que son étude n'est pas comparative. Il ne compare pas les patients qu'il traite avec de l'hydroxychloroquine et ceux qui n'ont pas de traitement. Ça lui vaut d'être toujours extrêmement contesté par ses pairs. Mais le professeur Raoult s'en moque. Pour lui, c'est de la médecine de guerre. Près de 900 personnes sont soignées actuellement avec son traitement et il peut compter ici sur un important soutien politique bien sûr mais aussi populaire. On a pu voir une large banderole à sa gloire déployée par les supporters de l'OM devant son institut.
Merci beaucoup Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
Et depuis le début du confinement, les obsèques se déroulent en comité restreint, une douleur supplémentaire pour de nombreuses familles.
Oui, 20 personnes grand maximum autorisées à venir, c'est évidemment très peu, d'où l'idée de cette société de pompes funèbres située à Abbeville, offrir une connexion internet privée pendant la cérémonie, une manière pour les proches de rendre un dernier hommage au défunt Antoine de Carne.
Pour tout simplement permettre à une famille de dire adieu à un défunt, William Molville a décidé spontanément de proposer ce dispositif dans les 3 agences de pompes funèbres Picard qu'il détient.
On a réfléchi un petit peu dans l'urgence. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir filmer en direct afin que les personnes soient totalement en immersion en fait, dans la cérémonie. Le moment primordial pour la famille où tout le monde se rassemble pour dire le dernier adieu au défunt.
L'agence de pompes funèbres a investi 1000 euros pour permettre aux familles de pouvoir suivre la cérémonie dans les meilleures conditions à partir d'une page internet totalement privée.
C'est une page avec une adresse dédiée qu'on transmet par mail aux membres de la famille qui nous a donné pouvoir et cette personne va pouvoir transmettre ce lien à tous les membres de sa famille. Il y a également un mot de passe pour pouvoir déverrouiller la vidéo.
Pour 45 euros, l'opération ne se veut surtout pas voyeuriste. Mina Olville est maîtresse de cérémonie pour elle. L'objectif, c'est surtout de réconforter les familles.
Elles sont effondrées. Elles ont le sentiment de ne pas avoir accompagné jusqu'au bout, celle ou celui qu'elles aiment. Donc oui, pour nous, ça peut aider parce que toutes les personnes connectées, elles ont eu ce sentiment de vivre ensemble ce dernier au revoir.
Un dernier au revoir nécessaire pour ces familles et ce, malgré la situation sanitaire.
Le reportage d'Antoine de Carne, Abbeville, dans la Somme, pour RTL.
Restez bien avec nous, la suite du journal de Yann Boucherie, c'est dans un instant, bien sûr, sur RTL. Nous irons aux États-Unis où un bébé est décédé du coronavirus. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Yann Boucherie, la suite du journal sur RTL à l'étranger. Yann, cette nouvelle douloureuse en provenance des États-Unis, un bébé porteur du coronavirus a succombé.
Oui, le décès est survenu dans l'Illinois, dont la capitale est Chicago. C'est le gouverneur de l'État en personne qui est venu l'annoncer au grand public, Philippe Corbet.
Oui, le gouverneur de l'Illinois était très ému en l'annonçant. On sait seulement que ce bébé de moins d'un an était porteur du virus. Une autopsie va déterminer si le Covid est la cause de la mort. Avec 2000 décès, le bilan a doublé en seulement 2 jours. Et pourtant, certains États touchés refusent toujours de prendre des consignes de confinement, comme la Floride, où le gouverneur, proche du président Trump, demande seulement aux plus de 65 ans de ne pas sortir, mais laisse des plages se remplir. Le président veut que l'activité économique reparte d'ici 15 jours, que les églises soient pleines à Pâques, où ce sera possible. Ce samedi, entouré de drapeaux, comme pour un meeting électoral, il a assisté au départ d'un navire hôpital qui doit rejoindre New York ici demain. Il a annoncé au passage une quarantaine autour de l'agglomération, l'épicentre. Absurde, anti-américain, a répondu le gouverneur de New York, qui ne savait même pas ce que le président entendait par quarantaine, empêcher à 20 millions de New-Yorkais de sortir. Une idée digne de la guerre civile, la guerre de sécession, selon lui. Le président a finalement renoncé à son idée dans un tweet.
Philippe Corbet, le correspondant d'RTL aux États-Unis. En Italie, le bilan est de plus en plus effroyable. Plus de 10 000 morts recensés. Et maintenant, des bons alimentaires aussi distribués aux plus démunis. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte. Un fonds de 400 millions d'euros va être débloqué pour venir en aide notamment aux populations du Mezzogiorno et de Sicile qui travaillent souvent au noir et ne peuvent donc pas prétendre aux aides prévues par le gouvernement italien.
Les sports et l'avenir toujours incertain du Tour de France 2020.
Oui, on le sait, l'épreuve est en sursis. La ministre des Sports a évoqué la possibilité de disputer la grande boucle à huis clos, mais une annulation pure et simple n'est pas à exclure, évidemment, ce qui constituerait un désastre pour de nombreuses équipes cyclistes, Nicolas Georgerot.
Bah oui, tous les acteurs du cyclisme poussent à la roue et sont favorables à la tenue du Tour. Le message a parfois du mal à passer dans l'opinion publique, mais le modèle économique est fragile, selon Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama FDJ.
L'entêtement, je peux l'entendre, chaque secteur d'activité a ses spécificités et le cyclisme a les siennes qui sont différentes du foot, qui sont différentes d'une usine Renault. C'est quelque chose qu'il faut intégrer avant d'éventuellement porter un jugement.
Car les équipes ne vivent que grâce aux marques, aux sponsors qui les possèdent. Il n'y a pas d'autres recettes. Le Tour de France offre une visibilité sans comparaison. Jérôme Pinault est le manager de la formation B&B Hotel Vital Concept qui doit vivre en 2020 sa première grande boucle.
Les partenaires ne vont pas payer s'il n'y a pas de visibilité. Il ne faut pas rêver, hein. Ils payent pour ça les partenaires. Aujourd'hui, on sait que l'investissement dans le vélo, il est quand même en grande partie dû à cette visibilité, à cet événement-là.
Même les effectifs les plus puissants vont y laisser des plumes. Les Belges de Koenig Quickstep n'ont pas pu briller, notamment sur les classiques du printemps. Le manque à gagner peut atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros.
Le reportage de notre cycliste à nous, RTL, Nicolas Georgerot.
Il fait du vélo, vraiment. Fais-toi sûr. On refait le sport ce soir, c'est 19h30, 20h pour tout savoir. Bien sûr, on vous maintient en forme avec le service des sports de RTL. Yann Boucherie revient à 11h pile pour vous informer. Un petit regard sur la météo du dimanche, Valérie Quintin. C'est pas top top, il y a même un peu de neige. Hein.
Ouais, il y a un peu de neige qui se mêle à la pluie. C'est des pluies qui circulent entre le Berry et l'Alsace et principalement donc en Côte d'Or ou encore dans le Bas-Rhin. On a quelques flocons qui se mêlent donc à ces petites pluies. Le ciel est souvent nuageux. Pour autant, on trouve du soleil dans le sud. Il devrait se maintenir toute la journée sur les bords de la Méditerranée. Pour la moitié nord, on va quand même profiter de quelques belles éclaircies, mais entrecoupées de grains orageux, parfois de grésils. D'ailleurs, c'est assez plombé quand même sur les régions côtières de la Manche. Et par ailleurs, sur la moitié nord, on va aussi avoir beaucoup de vent, un vent froid qui nous rapporte cette neige, une neige qu'on trouvera en montagne à 500-600 mètres entre le Massif central et les Alpes du Nord et au-delà de 1000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Les températures, forcément, ça baisse. 7 à Clermont-Ferrand, 9 à Lille-et-Verdun aujourd'hui, 10 à Paris et Auxerre, 12 à Bordeaux, 14 à Grenoble et 20 degrés tout de même à Nîmes.
Merci beaucoup Valérie Quintin. Voilà, on vous a tout dit depuis 5h du matin. On vous a accompagné pour vous tenir au courant, bien sûr, pour vous offrir des sourires en cette période tellement délicate. Je termine le rendez-vous avec l'ultime message de la page Facebook en ce dimanche. Heureusement, RTL est là. Merci de votre fidélité. Vincent Perrault pour la musique. Ça va faire du bien. Ça va, Vincent?
Oui, Stéphane, c'est vrai que l'actualité est quand même intense, on va dire.
Voilà. Hein,
un peu importante. Alors, je pense qu'une heure et demie de musique ne va pas nous faire de mal. Et puis, on va prendre nos auditeurs en ligne pour savoir comment eux vivent leur confinement. C'est intéressant de savoir comment chacun vit les choses.
Merci Vincent, bon dimanche.
Merci beaucoup Stéphane, à plus tard. Audible.